Titus Vesperini fait le singe. Marseille, port interlope aux portes des mille mystères de l'Orient. Et d'ailleurs, une nuit de fin avril 1913, par un venimeux coup de froid tardif.
Ah, bonne mère, t'es là, toi? Eh ben, tu m'auras fait courir, hein, maudite femelle. Pire qu'une cagole. Qu'est-ce que tu te caches dans ce wagon à bestiaux, toi? Quoique, avec la bobine que tu te traînes. Mais qu'est-ce que ça coûte, tout ce bordel, là? Un vrai laboratoire de savants fous sur rail. C'est là qu'il trafiquait, le Polac? Juste derrière la gare Saint-Charles? Et toi, là, pourquoi t'es attifé comme un carac, là, avec tes habits de maquereau et ton melon de parisien? Allez, ma belle, tombe le chapeau. Oh putain, mais qu'est-ce que t'as sous ton capet, oh? Mais qu'est-ce que t'es, ma belle?
Ça, pour lui courir après, il lui avait couru après, Titus Vesperini, à cette maudite femelle, comme il disait. Faut dire aussi qu'il avait longtemps cru que c'était un sale petit bonhomme, bancal, vicieux et dangereux. Un demi-sel acide affûté du rasoir, une lame perfide de faible ou de lâche. Au début, Vesperini lui avait couru après pour esbrouffer le commissaire Francis Ladoumègue, après leur souper tardif de viande froide, rue d'Aragno, au panier. À l'évidence, un faux suicide, même pour la fine fleur de la sûreté marseillaise réveillée en pleine nuit. C'était fin avril, un froid de canard était retombé sur la mare aux mouettes. En plein milieu de la nuit astringente, la scène sanglante pointait le tragique et le grotesque. Un homme, à moitié nu, baigné dans une mare de sang, le sien. À l'évidence, le pauvre bougre s'était ouvert la gorge lui-même, avec son rasoir, devant son petit miroir de toilette accroché à un clou dans le mur lépreux. En dessous, bassin et brocs en ferblanterie de salle de bain du pauvre. Le pot de chambre gisait, renversé sous le lit. Il y avait du savon à barbe partout sur le mur. Comme si, devenu fou, le pauvre homme avait tenté de repeindre au blaireau moussu sa mansarde crasseuse avant d'attenter à sa vie.
T'es,
avait noté Vesperini.
Ça sent presque bon, à part le relent de sang-froid.
Titus Vesperini était l'assistant, pour ne pas dire l'indique, du confortable commissaire Ladoumègue. L'un avait dépassé les 50 ans. Il redondait, respectable comme une bonbonne de rouge, son breuvage favori avec le café et le garlaban. L'autre était sec comme un carême et sonnait tout juste 19 ans. L'un filait vers le crépuscule de sa vie, le regard là au-dessus d'un nez bulbeux et une très grosse moustache. L'autre avait le regard pétillant, beaucoup d'énergie et une finesse qui compensait son manque de culture. De minces favoris affinaient encore un visage de fouine des bas-fonds. On ne sait pas trop pourquoi, Ladoumègue rêvait de sortir cette petite gouape de Vesperini du milieu malfamé où il grenouillait depuis tout tétard. Pour en faire un flic. L'autre fouine faisait l'âne pour avoir de l'oseille. Mais ses activités, moins reluisantes pour des truands ou un étrange réseau occulte à l'enseigne d'un haut chapeau, lui rapportaient beaucoup plus. Titus Vesperini enchaîna en frissonnant.
Bon, ma foi, on a voulu nous faire croire que le garçon s'est zigouillé. Si j'en crois les deux veuves en bas, c'était pas un drôle. Un ingénieur, je crois. Polonais, il parlait tout juste le français. Il a fui son pays pour cause d'agitation politique. Bon, faut dire aussi, il faisait partie des agités.
L'expansé Ladoumègue lui jeta un regard excédé.
Il fricotait dans la mécanique et les mathématiques, comme que ce soit. Ça, je l'avais bien compris sans les commères d'en bas. Il y a des croquis et des calculs éparpillés partout.
L'étriqué Vesperini scrutait maintenant le gros Ladoumègue par en dessous, comme un navet long craignant un énorme potiron. Ladoumègue soupira une terrible lassitude.
Les pleureuses en bas, elles m'ont dit que le mort, là, c'était pas un clodo. Il travaillait, du côté de la gare Saint-Charles.
La Domègue renifla comme si Vespérini puait le pipi de chat.
Comme que ce soit, nous sommes au bord de mer et on a voulu nous prendre pour des tanches. Pour un suicide, on a un costard de trop. Et pas de traces du tueur.
La Domègue souligna son mépris d'un gargouillis grave de son estomac.
Tiens, il s'est volatilisé par la fenêtre. Tu ferais mieux de tailler le bout de gras avec les vieilles d'en haut au lieu de celles d'en bas, non, Vespérini?
Vespérini se tut prudemment. Entre le macabé et la fenêtre ouverte sur la nuit glaciale, gisaient en vrac pantalons élimés, chemises crasseuses, chaussures éculées, grosse écharpe sale, couronnées par un chapeau rond disproportionné. Des habits de trop, avec un melon tout autant de trop et un peu trop gros.
Le barbier devait avoir une sacrée paire d'oreilles pour tenir ce galurin au-dessus de ses yeux.
Renacla la Domègue. Derrière les siens dansait un pot à café fumant. Vespérini s'approcha de la fenêtre. La Domègue s'emporta soudain au travers de sa grosse moustache de morse gras.
Mais bonne mère, quoi que ce soit, il n'a quand même pas filé à poil par la fenêtre.
Vespérini vit un atout à jouer. Sans se dégonfler, il ôta veste et casquette, se déchaussa. Il révéla de vieilles chaussettes nauséeuses et trouées qu'il retira. Puis, d'un bond leste, il sauta sur l'appui de la fenêtre. Surpris, la Domègue s'étouffa.
« Oh, Minot, fais pas le couillon !»
Mais Vespérini avait déjà enlacé le tuyau de zinc glacial qui courait le long de la façade lépreuse. Il vint caler ses pieds sur le mur tout aussi froid, puis, sans attendre le vertige ou la crampe gelée, il se faufila en cafard pâle jusqu'au bord des tuiles. D'un coup de rein, il se hissa sur le toit et s'immobilisa pour ne pas glisser sur les tuiles humides. Il rampa jusque les faîtières et s'y installa, une jambe de chaque côté. Il scruta les toits sombres. Il l'entrevit finalement, furtif, une espèce de métèque velue aux fesses glabres et pâles, comme une lune fendue. Le fugitif se coulait dans les flaques d'ombre les plus obscures, maigre, se dandinant comme atteint de polio, mais avec une souplesse surnaturelle. Vespérini déduit immédiatement que son suspect était un gars de petite taille, malingre et rapide. Peut-être un enfant. Il portait encore un étrange couvre-chef improbable, court, haut de forme bombée. Vespérini fut tenté de jouer les chats et de poursuivre en sprint l'assassin. Mais une rafale le rabattit sur son toit alors qu'il se levait. Prudemment, il rejoignit la mansarde, jugeant que le dodu ne ferait pas le ronflant après son numéro d'acrobate. Même s'il ne l'aurait jamais avoué, c'est avec un intense soulagement que la Domègue revit enfin Vespérini se couler sur la scène du crime. Ces téméraires acrobaties nocturnes n'avaient été que les prémices d'une longue poursuite, émaillée de fausses pistes incompréhensibles. Ainsi, Vespérini avait longtemps été persuadé que le tueur avait ses quartiers du côté des Chartreux. Car tout le ramenait constamment derrière le fameux parc zoologique du Palais Longchamp. Mais, méthodique, Vespérini avait aussi pris ses quartiers de Sherlock du pauvre dans les voies de triage de la gare Saint-Charles, où il amenait des litrons rouges et râpeux aux mécanos et cheminots. C'est ainsi qu'il finit par coincer son tueur dans le wagon laboratoire du Polonais Zigouillé. Car Vespérini avait fini par comprendre que l'égorgeur était un singe. Il s'était repassé plusieurs fois la scène surréaliste de cette silhouette velue à la lune pâle. Et puis, un matin, devant la cage des chimpanzés du zoo où la piste du meurtrier aboutissait systématiquement, un singe. Plutôt une guenon, puisqu'à l'évidence, la particulière à la lune fendue n'affichait ni la banane ni l'écrasquette du mâle. Titus s'était donc préparé à coincer une guenon, mais il ne s'était pas attendu à ce qu'elle travaille du chapeau, au sens presque propre. Lorsque le melon généreux glissa de la frimousse de la friponne, Vespérini s'écria donc.
« Oh putain, mais qu'est-ce que t'as sous ton capet ou... Mais qu'est-ce que tu es, ma belle ?»
Une guenon, certes, mais une guenon que le Polonais au sourire fatal avait appareillée directement sur le cerveau. Le haut du crâne avait disparu. Sous un globe de verre oblong et épais, un cerveau étrangement humain était bien visible. Agrémenté de fils électriques, de cristaux de pierres précieusement enchâssés dans d'infimes écrins de cuivre. Malin, Vesperini comprit que la Doumègue ne faisait pas le poids pour une telle trouvaille. Après avoir mis l'étrange animal augmenté en sécurité, Titus alla au bureau de télégraphe le plus proche et câbla à ses mystérieux mais riches amis à long chapeau.
Bon alors, je dicte, hein. Mystérieux nabot meurtrier au melon retrouvé. Stop. Sous le melon, cervelle sous cloche. Stop. Pan paniscus femelle sous cervelle d'homme. Stop.
Titus Vesperini fait le singe. Un conte dans l'univers de la Société des vieilles têtes à long chapeau. Écrit par Georges Fauveau. Narré par Vincent Corlet et Georges Fauveau. Mise en son par Vincent Corlet sur une musique de Kevin MacLeod. Une production signée Georges Fauveau et Vincent Corlet pour la Société des vieilles têtes à long chapeau.